Alors, ça va faire bientôt un mois que je suis parti en Angleterre. J'ai pas trop eu le temps de faire vraiment un compte rendu de ces vacances d'une semaine. Ça fait à peu près 3 semaines que je suis rentré. Pour diverses raisons, et j'ai pas trop envie de m'étendre dessus. Alors, donc, commençons par le début, on va dire, de ces vacances. Pourquoi faire une semaine de vacances en Angleterre? Concrètement, ça va faire à peu ça au mois de novembre 2014. Ça allait faire pratiquement un an que je n'avais pas pratiqué d'anglais vocal en situation réelle. Donc pour moi, pour éviter de perdre, on va dire, mon acquis, il fallait que je pratique sur le terrain dans des situations qui ne seraient pas forcément évidentes à vivre et non explicitées parfois dans les livres. C'est surtout me confronter à la langue des gens, pas aux séries ni aux, on va dire, aux CD d'entraînement auditif, où là, ils font vraiment exprès de bien articuler, de faire en sorte que l'on comprenne à peu près toutes les phrases. Donc la genèse du projet, ça a été simple. J'ai essayé de faire un voyage un petit peu complet. Je regrette de ne pas avoir fait toutes les villes que j'aurais voulu, mais physiquement, ça allait être très difficile. D'ailleurs, ce voyage a été très difficile. Moins que le 24 sur 27 à Toulouse, que j'ai fait fin août, début septembre. Là vraiment, j'ai essayé d'anticiper sur le voyage. Je crois que j'ai bien économisé avec la carte jeune niveau de l'Eurostar. Ça, c'était sympa. Les premiers jours, j'ai été à Londres, enfin le jour où je suis arrivé, le lendemain, et je crois que c'était tout. Non, j'avais aussi le lendemain matin. J'étais à Londres, dans deux auberges de jeunesse différentes. Je voyais, j'ai passé 2 nuits. La première, c'est le Selink 79, si je ne me trompe pas. Et la seconde, c'est le Selink 261. Donc tout ça, c'est près, vraiment près de la gare de Saint-Pancras. Je recommande quand même le Selink 261. Il y a plus de choses, les chambres sont, je pense, un petit peu plus luxueuses que le Selink 78. Il y a un bar déjà, il y a une salle de lecture qui est assez plaisante, c'est un peu plus grand, il y a vraiment des installations pour, on n'est pas entassé, et c'est un petit peu mieux organisé, je trouve, hein. Après, libre à vous. Durant ces 2 jours, j'ai pas vraiment été. J'ai fait des choses qui étaient, on va dire, pas vraiment touristiques, mais presque. La visite de la BBC, j'ai fait les magasins, j'ai un peu tâtonné dans les rues, tout ça. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Plus de la découverte, savoir me réserver encore quelques endroits où aller. J'ai essayé d'optimiser au mieux la carte Oyster. C'est la carte Navigo. Du londonien, sans photo ni rien, c'est juste une carte NFC avec voilà. Et en fait, c'est le trajet en lui-même. Il fait 2,30 livres, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on passe, on paye ce tarif-là, même si on fait une station, 2 stations, on paye toujours ce prix-là, ou si on va tout au bout de la ligne, enfin, je crois. Et au bout de 3 ou 4 voyages, 4 voyages je crois, après on voyage gratuitement. En gros, c'est on dépense 8 euros, 8 livres et des bananes. On a, on va dire, le reste de la journée gratuit. Donc ça, j'ai essayé de la rentabiliser au max. J'ai voulu faire le Shard. C'est une grande tour, aussi grande que la tour Eiffel, voire un petit peu plus. Sauf que tout en bas, j'étais vraiment paniqué, paniqué. Je me suis dit, non, je ne vais pas pouvoir la faire, je la sens pas. Et du coup, j'ai réussi à me faire rembourser, chose qui, dans les termes de vente, n'est pas valable, n'est pas obligatoire. Et en fait, j'ai tellement paniqué que les mots me manquaient, l'équipe n'a pas trop pu me comprendre, même un gars qui parlait à peu près le français, chose qui est assez sympa, c'est que c'est un endroit vraiment très très bon chic, grand joie. Si t'as toujours un gars qui parle à peu près le français, hein, il comprend pas tout, mais les idées essentielles, il comprend. Et là, ils m'ont dit, bon bah, on peut rien faire pour vous, on va vous rembourser, et ça s'est plutôt bien passé. Je voulais faire quelque chose pour voir Londres un petit peu mieux que dans les rues, que sous le métro. Donc du coup, j'ai fait un truc que plus jeune avec le collège, j'ai pas pu faire parce que j'avais aussi le vertige. Le London Eye. Alors, le London Eye, c'est quelque chose qui peut paraître relativement abordable, sauf que si on prend tout le bazar à côté, si on fait vraiment la petite visite en 4D juste à côté, ça peut revenir assez cher car ils se font putain de marge sur les objets dérivés. En fait, on vous donne un petit ticket où vous pouvez vous faire prendre, vous pouvez vous prendre en photo. On vous donne un ticket, vous le donnez à un gars à la fin, soit de l'exposition, soit de la grande roue, pour vous faire un petit lot avec votre photo, un mug, des conneries comme ça. Et en fait, si on prend simplement une photo, ça coûte dans les 11 livres. Si on prend tout le lot, ça prend une vingtaine de livres. Le but, c'est vraiment de prendre le tout. Et je trouve ça vraiment ridicule, alors que les photos, on pourrait très bien les avoir en digital, en payant un petit pécule, peut-être, mais voilà. Il n'y a pas ce côté palpable. On est obligé de claquer les 15 livres pour une seule photo ou les 20 pour avoir tout le pack. C'est un petit peu ridicule. Donc je l'ai fait cette tour de nuit. J'avais été un petit peu déambulé à droite à gauche auparavant près de la Tamise. J'ai vu un superbe magicien, Ross McCount. Désolé pour la prononciation. Qui m'a vraiment impressionné. Voilà, je me suis dit, tout ce qu'on voit dans le plus grand cabaret du monde, c'est du pipeau. À tous les coups, il y a un truc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et là, j'ai eu une sorte de magicien dans ce genre, qui a fait les tours, mais vraiment très à proximité, ça s'enchaînait très vite. J'étais assez bluffé, il a même demandé à avoir un portable, comme on va dire, pour faire un tour. Vu que je n'y croyais pas, j'ai proposé mon téléphone, et j'étais assez bluffé de voir que son tour, en fait. Et mon téléphone fonctionne toujours, c'est ça l'avantage. Ça, c'était, je crois, le jour où je suis arrivé. Le lendemain, ce que j'ai fait, c'est la visite de la BBC et des boutiques. Donc, le siège de la BBC en lui-même, il est en plein centre-ville. C'est un bâtiment des années 30. Et pour être tout à fait franc, j'ai été impressionné. J'étais impressionné parce que je me suis dit, oui, on entre dans la BBC, mais voilà, rentrer aussi dans les locaux de Radio France à Paris, c'est voilà, il n'y a pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Et là, on a vraiment visité tous les locaux, enfin une partie des locaux. On n'a pas été dans les étages où il y a les émissions et tout, mais on a fait vraiment un petit circuit. assez sympathique avec, on va dire, un passage sur la newsroom de la BBC. On est invité déjà à rentrer dans le salon, enfin, dans le café de la BBC. Il y a des employés qui font leur cours, qui font leur pause. Il y a une boutique pour les gens qui comme moi, réservent une visite dans la BBC. Et il y a un Costa Café à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai dépensé des sous honteusement pour boire un chocolat là-bas. Et donc, dans la BBC, on a fait vraiment un petit tour avec la newsroom, un petit stand de présentation de JT, où bien sûr j'ai demandé à être volontaire et à parler en anglais. Le rythme est assez chaud. J'ai essayé de tenir le rythme, hein. C'est parfois plus rapide que ce que je dis actuellement, mais ça va. Il y a juste 2-3 lignes que j'ai sautées parce que c'était vraiment chaud, chaud, chaud. La météo, après on a fait vraiment la visite d'une émission, des locaux d'une émission. En fait, c'est une émission qui paraît où le studio paraît beaucoup plus grand. Hein, ça ne... Mais en fait, c'est tout rikiki. Et c'est avec les jeux de lumière, les positionnements de caméra qui font que on a vraiment l'impression que c'est plus grand à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a? On a été aussi dans un autre bâtiment qui était le bâtiment qui est le bâtiment originel où il y a des représentations de musées avec, on va dire, un endroit où il y a une tapisserie avec le général de Gaulle qui serait représenté, le micro dans lequel il a parlé, le micro où Édouard V a parlé pendant la guerre. On a appris beaucoup de choses, comme quoi le général de Gaulle a resté 3 ou 4 ans au quatrième étage de ce bâtiment-là. On a été aussi dans une des salles. Dans un des auditoriums de la BBC qui a servi aussi pendant la guerre à héberger des soldats français, enfin des résistants français et des soldats. Et fait particulier, on entend le métro qui est juste en dessous. Alors, faut faire attention parce que ceci, cela, mais quelques fois par heure, je crois que c'est 3 fois par heure. On entend le métro passer juste en dessous. Et la visite s'est terminée sur une représentation, il me semble, oui, un endroit où ils font les enregistrements d'histoire pour la radio, avec les bruitages et tout. Je crois que je vais couper à ce moment-là parce que j'ai peur. Avec le temps, on en est à peu près 13 minutes. Je vais reprendre la journée de demain sur un autre fichier. À plus tard.